ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui écoute. Ce talent, cette faculté d'écoute, cette belle manière de supporter le silence ne relève pas chez elle d'un don inné. Non, elle a appris. C'est la vie qui le lui a appris, et peut-être aussi son métier. Longtemps, il lui a semblé que les gens ne se livraient pas assez, qu'ils restaient trop verrouillés, sans réussir à dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis, elle a compris. Elle a compris les vertus du silence. Fermer sa gueule, c'est quand même une bonne façon de laisser de la place à l'autre. Savoir attendre et dire avec les yeux qu'on est là, pas pressé, décontracté du temps, avec le cœur ouvert. On parle beaucoup aujourd'hui d'écoute active. C'est une manière d'écouter l'autre en lui demandant notamment de reformuler ce qu'il vient de dire. D'écouter l'autre sans juger pour être sûr qu'on l'a bien compris. Mais l'écoute active est possible aussi dans le silence. Alors, on est actif avec ses yeux, avec ses sourcils, avec d'imperceptibles mouvements des ridules sur son front, avec cette énergie dans son corps, avec ses expressions aussi, toute la gamme de ses expressions. Et alors, il arrive que le miracle opère et que l'autre se livre parce qu'il se sent tout simplement, parce qu'il se sent enfin écouté. Parce que l'écoute est peut-être une des plus hautes formes de générosité. Mais comment y arriver? Comment retenir ce qui se presse en nous et voudrait tant sortir? Que faut-il écouter au fond de soi pour réussir à écouter l'autre, à écouter les autres? Comment ne pas s'empresser de les juger? Faut-il emprunter un peu à la sagesse des anciens sages sceptiques qui savaient ne jamais tomber d'un côté ou de l'autre du jugement? Comment résister à cette impression que nous avons parfois d'avoir déjà compris ce que l'autre va dire? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une femme qui n'est ni psychanalyste, ni psychiatre, ni commissaire de police, ni même journaliste, mais une comédienne et actrice qui a endossé tous ses rôles avec bonheur. César de la meilleure actrice en 2019 pour son rôle dans Jusqu'à la garde. Aujourd'hui, elle affiche au théâtre de La Séparation, l'unique pièce de théâtre du prix Nobel de littérature Claude Simon, et au cinéma de Dossier 137, l'excellent dernier film de Dominique Moll. Léa Drucker est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon, et en sa compagnie, nous allons interroger les vertus de l'écoute en nous demandant ce qu'il faut de générosité et peut-être même ce qu'il faut d'amour pour réussir enfin à s'écouter.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je vais essayer de vous écouter parce que si je fais un édito comme ça, comme lancement et que je ne fais que parler, ça ne va pas bien se passer. Alors, j'ai vu votre pièce, La Séparation, oui. Dans laquelle vous êtes longtemps et très souvent silencieuse.
Oui. Oui, c'est la première fois que je fais ça au théâtre d'ailleurs. Et c'est un défi dont je ne me suis pas forcément rendu compte quand je me suis lancée dans ce projet avec Alain Françon. J'avais évidemment lu cette pièce et je trouvais ce personnage de Louise, bon, la pièce me plaisait beaucoup, travailler avec Françon me plaisait beaucoup, ces acteurs-là, je les admire beaucoup, mais ce personnage de Louise était sans doute le plus mystérieux dans le texte parce que il s'exprime moins que les autres,
ouais.
Il se raconte moins. Et j'ai l'habitude au théâtre de jouer des pièces, où, avant la dernière pièce que j'avais jouée c'était Fédo, La Dame de chez Maxime, j'ai joué des psychodrames, ouais. J'ai joué des personnages qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon avec Alain Françon, les mystères vont se résoudre. Et ce qui est intéressant avec Alain Françon, c'est qu'il ne cherche pas forcément à résoudre tous ces mystères. C'est-à-dire qu'il nous fait, il aime tant les comédiens et notre travail qu'il pense que les comédiens vont, eux... Enfin, j'en ai jamais parlé avec lui, mais c'est intuitivement ce que j'ai compris, qu'on va résoudre ça avec évidemment avec le travail de répétition et la représentation. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans la peau de ce personnage qui est là, qui a cette présence. Et qui fait partie... C'est ces gens... qui parlent moins que les autres, en fait.
Et qui sont fascinants, en fait.
Oui.
Souvent, ils attirent l'attention, en fait.
Ils attirent l'attention, mais c'est très bizarre pour une comédienne d'être dans la peau de quelqu'un qui ne cherche pas à exister plus que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire que c'est c'est un combat contre l'ego, en fait. Et or, notre métier, pour pouvoir être sur scène et se présenter devant vous, c'est quand même, il faut assumer un minimum d'avoir envie d'être regardé, si vous voulez. Et là, ce personnage me met dans un combat intérieur qui est passionnant, qui est difficile, mais qui est passionnant. Et ce dont parle la pièce, c'est aussi ces gens qu'on ne regarde pas, parce qu'on parle aussi de cette tante qui est en train de mourir, qui a passé sa vie, on va dire... du point de vue du personnage de Catherine Yeagel, c'est un personnage, on dirait que c'est une femme un peu transparente, cette vieille tante en train de mourir, on l'a... c'est des gens discrets, c'est les discrets.
Ouais, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne un peu, la pièce met en scène une maison, c'est dans cette même maison que la tante, la vieille tante est en train de mourir, et nous, spectateurs, on voit deux pièces mitoyennes, séparées donc par une cloison, c'est donc ça aussi la séparation, c'est pas uniquement la séparation dans le couple, c'est aussi entre deux pièces, et les deux couples qu'on voit, c'est d'une part un couple en milieu de vie, vous et votre mari, et d'autre part, les parents de votre mari, donc vos beaux-parents. Et en fait, on comprend, à travers leur crise de couple, la vôtre.
Oui, vous voulez dire la crise de couple du couple plus âgé, enfin plus âgé, les parents. Oui, on comprend la nôtre. Il y a aussi, dans notre couple, que joue Pierre-François, interprété par Pierre-François Garrel et moi, chez Pierre-François Garrel, dans son personnage, le traumatisme de la guerre qui est très présent. Et je pense que ce traumatisme-là et cette folie dans laquelle ça l'a plongé prend tant de place que cette femme n'est pas du tout écoutée, pour le coup. C'est-à-dire que son désir d'amour à elle n'est pas écouté. Et en effet, cette cloison qui sépare ces deux couples met en scène souvent une situation, notamment où moi, par exemple, j'écoute ce qui se dit à côté.
Ouais.
Et que cette écoute-là fait voyager Louise vers une décision assez vers un mouvement intérieur qui est très fort. Mais c'est aussi c'est très intéressant parce que quand je suis sur scène et que j'entends Catherine Yeagel ou Alain Libolt ou Catherine quand elle
donc ça c'est le couple des gens qu'on comprenne plus âgés et juste sans trop défricher la pièce.
Oui.
En fait, c'est une histoire d'adultère, alors soit réel soit fantasmé. Plutôt réel, je crois, mais je suis pas sûr. Et du coup,
plutôt réel.
Ouais. Et vous êtes aussi dans une crise de couple, et donc ça vous fait réfléchir d'entendre les dégâts qu'ont causés sur des décennies entières cet adultère.
Oui.
Et donc ça va vous faire prendre une décision. Alors je dis pas laquelle.
Oui.
Peut-être de renoncer à l'amant et à l'amour passion. Oui. Peut-être pas. On verra. Et du coup, c'est passionnant parce que c'est dingue ce que vous faites. Pendant très très longtemps, vous parlez pas et vous écoutez. Et donc, on voit vos expressions et on imagine tout ce qui se joue en vous de l'élaboration de cette décision pendant que vous écoutez la crise du couple plus âgé.
Mmh.
Et évidemment, c'est aussi une mise en scène de la vie intérieure. Parce que finalement, c'est votre vie intérieure qui est donnée à voir dans ce silence.
Oui, et puis c'est une interaction totale entre ces deux femmes, entre cette femme qu'interprète Catherine Yeagel et moi, et c'est-à-dire qu'il y a une sorte de projection à travers ce que j'entends d'une possibilité de ce que sera l'avenir, et qui est un avenir assez effrayant, et à la fois une empathie, quelque chose de... Il y a deux femmes aussi qui souffrent à cause de ce qui se passe dans leur couple. Mais ce qui est intéressant...
On va dire tout le monde souffre.
Tout le monde souffre, oui, c'est vrai, tout le monde souffre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui fusionne entre le personnage et la comédienne dans cette écoute, parce que c'est très puissant d'avoir cette cloison qui me sépare de Catherine.
Ouais.
C'est-à-dire que ce que fait Catherine Yeagel, que je ne vois pas, je pense que je le recevrais de façon exceptionnelle si j'étais spectatrice. D'ailleurs, les spectateurs le reçoivent ainsi. Mais d'être actrice derrière cette cloison et d'entendre ce que fait Catherine, ça prend une dimension, pour moi en tout cas, de mon expérience d'actrice, qui est incroyable.
Et en plus, dingue par rapport, comme vous l'avez très bien dit, à la question de l'ego. Parce que donc, elle fait un morceau de bravoure, elle fait un truc de dingue, elle se lâche complètement. C'est outrancier, c'est fort, c'est radical, c'est dingue. Et on voit rarement ça, d'ailleurs, avec une comédienne de son âge. On peut le dire, c'est très rare.
Elle est géniale, hein.
Et du coup, la question qui est posée, c'est qu'en plus, elle attire vachement l'attention.
Oui.
Vous pouvez presque parfois avoir l'angoisse qu'on ne vous regarde pas, à la limite.
Oui.
D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai dit à ma compagne, regarde Léa Drucker, parce que j'ai l'impression qu'elle ne vous regardait pas, qu'elle regardait que, parce que c'est plus violent ce qui se passe de l'autre côté de la cloison.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et moi, je trouvais que vous étiez fascinante dans les imperceptibles variations, dans la façon de donner à voir une réflexion, mais non langagière, une vie intérieure. Mais ça ne doit pas être si facile à vivre.
C'est pas toujours... Non, c'est pas... Il y a des moments... Enfin, comment dire ? Il y a des... Moi ça, le concept me passionne. Donc, quand je... C'est une histoire, après, de fatigue, de fragilité de la journée, de choses comme ça, vous voyez. Mais
parfois, vous pensez à autre chose.
Alors, des choses très... Alors, si je commence à penser à des choses qui sont ordinaires, ou tout ça, je me prends les pieds dans le tapis. Hein. Ouais. Donc, il vaut mieux pas être... Surtout dans cette configuration-là, c'est dangereux. Mais il m'arrive de penser à des choses qui ne sont pas forcément connectées immédiatement avec la situation. Mais ouais. J'essaie d'éviter quand même. Mais ce personnage-là, je pense que Claude Simon, il a aussi imaginé ça, je crois. C'est aussi la conscience, en fait. Alors, certes, le spectateur ou la spectatrice n'est pas obligé de regarder, mais je crois que ce personnage, il permet aussi d'ancrer quelque chose. On peut rire de ce qui se passe, parce que c'est comme vous dites, c'est outrancier, c'est cruel, c'est féroce, ouais. Mais à la fois, il y a la conscience, parce qu'il y a quand même cette âme de ces personnes-là qu'on ne regarde pas.
Tout à fait, oui. Eh bien, on va écouter la voix de Claude Simon, justement. Donc, je vous rappelle que La Séparation, c'est sa seule pièce de théâtre.
Hein. Oui.
Il a eu le prix Nobel de littérature. Et il est au micro d'Alain Weinstein en 1988.
J'ai été témoin d'une révolution. J'ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières. J'ai été fait prisonnier. J'ai connu la faim, le travail physique jusqu'à l'épuisement. Je me suis évadé. J'étais gravement malade. Plusieurs fois à bord de la mort, j'ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d'église, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés. J'ai partagé mon pain avec des truands. Enfin, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, et cependant, je n'ai jamais encore, à 74 ans, découvert aucun sens à tout cela. Si ce n'est, comme l'a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien, sauf qu'il est.
Alors Léa Drucker, je me suis senti assez ému en écoutant Claude Simon.
Ah mais ça, c'est ce qu'il dit. D'abord, sa présence par la voix, ça m'impressionne toujours. Mais c'est surtout ce qu'il dit là. C'est une phrase que j'avais entendue quand on était en répétition. J'ai écouté des entretiens radiophoniques. Mais je dois dire que cette phrase, je n'arrête pas d'y penser. Ah oui. Que le monde ne signifie rien, n'a pas de sens. Mais au dehors du fait qu'il est quoi. Après ce vécu qu'il a eu, il a une vie incroyable entre son expérience de la guerre. D'ailleurs, toute la pièce dans laquelle on est, moi j'ai l'impression qu'on est rentré quand même un peu dans sa tête. Toute cette pièce, c'est des éléments de son vécu. Mmh. C'est plein d'éléments de personnages de sa famille. Je pense que Pierre-François Garrel incarne de façon assez proche l'expérience de guerre de Claude Simon.
Avec ça, c'est votre mari dans la pièce.
Oui, ouais. Ouais, Pierre-François Garrel, qui joue ce personnage de Georges et qui a été ce qu'a vécu Claude Simon en juin 40, la débâcle, où il est tombé, il était dans un régiment de cavalerie, il a eu un accident de cheval, il est tombé à cause d'un étrier, et en fait, il s'est relevé, tout le monde était mort.
Et d'ailleurs, il y a un truc très beau dans la pièce, dans la mise en scène, c'est qu'il y a un moment des lettres du livre de Claude Simon qui se projettent sur une sorte d'écran virtuel.
Et qui sont dites par Catherine Ferrand.
Et qui sont dites de façon très belle, et notamment, il y a cette phrase, que la guerre, c'est le silence. C'est-à-dire, non pas le vacarme, comme on le dit tout le temps, mais qu'il y a du vacarme assourdissant parfois, mais la plupart du temps, c'est juste le silence. On a peur, on attend, on s'ennuie, et c'est un silence.
Oui, et c'est effrayant, et c'est terrible, ça. Et ça, c'est beau. Ça moi, quand Georges, Pierre-François Garrel dit ça, ouais. Je trouve ça très bouleversant. Et en général, dans la salle, il y a le silence.
Ah, c'était horrible.
Parce que
tout le monde s'est dit, moi je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, ça doit être horrible ce silence. Et d'ailleurs, c'est aussi notre sujet. Parce que d'un point de vue métaphysique, l'idée que le monde ne répond pas, quand je l'interroge, et la séparation, c'est aussi la séparation avec le sens de la vie. Et d'ailleurs... Vous savez, dans L'étranger de Camus, il y a ça, le ciel est vide. Il y a aussi, dans la chanson d'Alain Souchon aussi, il y a ça, dans temps d'Angélus, on appelle, mais personne ne répond. Le ciel est vide.
Oui. Bah, c'est aussi l'anéantissement. Bon, c'est triste ce que je vais dire, mais l'anéantissement peut-être de l'espoir, non ? Dans ces phrases, dans ce concept-là. En tout cas, le silence, c'est le rien, en fait. Et le rien, c'est tout aussi.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est aussi qu'on continue à vivre aussi, non ? Enfin, c'est-à-dire on est, sauf que, voilà, je sais pas, ça m'effraie.
Après, ouais. D'ailleurs, c'est Pascal, le silence des espaces infinis m'effraie. Mais justement, il y a différents silences. Parce qu'il y a ce silence-là, métaphysique, quoi. Mais il y a le silence que vous jouez si bien dans plein de vos rôles. quand vous êtes dans le bureau des légendes psychiatres, dans le dossier 137 aussi, vous écoutez beaucoup. Vous êtes inspectrice à l'IGPN,
oui.
Donc à la police des polices, et vous écoutez beaucoup et vous posez plein de questions. Donc c'est quand même très, très récurrent dans votre travail d'avoir des rôles de personnes qui écoutent et qui sait supporter le silence. Et donc il y a aussi parfois une fonction du silence, c'est de permettre à l'autre d'accoucher en quelque sorte.
Oui, oui, et puis j'ai appris en travaillant dans les cours de théâtre ou avec des professeurs qui m'ont intéressé. J'avais un professeur qui m'avait dit, c'était un Américain, et il m'avait dit « nothing is something ».
Ah oui.
Alors ça m'a marqué ça, je me suis dit « tiens, ça c'est marrant, ça veut dire… » Parce que des fois on culpabilise de rien faire. Et d'ailleurs, souvent quand je me dis « là je fais rien », et je m'inquiète, et c'est souvent parmi les meilleurs trucs… qu'on m'a dit que j'ai fait.
Donc même dans le jeu, dans le jeu d'acteur, de comédien.
Oui, alors quand je dis rien, c'est que tout se passe à l'intérieur. C'est juste qu'il faut se dire que même si on ne parle pas, qu'on peut être intéressant. Et souvent, les gens qui ne parlent pas... Moi, j'ai un père, par exemple, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il...
Médecin ?
Oui. Ouais. C'est pas lui qui est le plus bavard hein, autour de la... Mais c'est vrai que quand il dit quelque chose, on l'écoute. Vraiment. Enfin, ça a toujours du sens. On a l'impression que sous prétexte qu'on s'ouvre pas les... Quand on est comédien, des fois, on se dit, là, mais là, je suis pas bouleversé, là, je suis pas hilar, ou là, je suis pas en colère, en furie. Et on a l'impression qu'on va pas être intéressant, mais je crois qu'en fait, y a plein de personnages qui permettent d'être juste assis là, d'écouter. Et en fait, on est teinté de ce qui se passe en face. On est teinté de la personnalité de l'autre aussi. On est teinté du moment.
Ouais, on est une chambre d'écho.
On a une chambre d'écho, et puis il y a un silence, il faut parler aussi du silence collectif, c'est-à-dire que quand, par exemple, au théâtre, il y a des moments comme ça de silence, et ben, par exemple, justement, ce moment où Pierre-François, la guerre, c'est ça, c'est le vide, le calme, rien, tout d'un coup, ça se partage, ça se diffuse, cette onde, elle se diffuse, et c'est super, c'est un peu magique.
Ouais, et d'ailleurs, si on met en parallèle ce que vous faites au théâtre en ce moment, donc dans la séparation donc, de Claude Simon, et ce que vous faites au cinéma dans Dossier 137 de Dominique Moll, dans la séparation, vous êtes une chambre d'écho du drame des autres qui sont derrière la cloison, et ça fait résonner le vôtre, et dans Chambre 137, c'est plutôt une chambre d'écho des fractures sociales, de la souffrance des gilets jaunes, et donc il y a cette idée peut-être de faire résonner tout ce qui est autour par le silence, justement.
Oui, le personnage y permettait ça aussi parce que c'était vraiment bien écrit et la manière dont il est construit amène quand même un mouvement après.
Ouais.
Elle fait un voyage, hein, ce personnage. Mais c'est vrai que la position, en tout cas, de cette policière de l'IGPN, c'est d'écouter, de recueillir les faits, donc de laisser les gens... Et parfois, par le silence, on met la pression aussi, hein. Des fois, quand on écoute, ça peut mettre la pression. Quelqu'un qui ment en face de vous, quelqu'un qui ment, vous l'écoutez en laissant 3 secondes, ça met la pression. Je suis pas obligée de froncer les sourcils et d'être fâchée parce que déjà, je vois la personne qui s'enlise en face de moi. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer au fur et à mesure, par exemple, pour le cinéma, au fur et à mesure des prises. C'est-à-dire qu'on peut aussi essayer de mettre des blancs. C'est comme en musique, quoi. D'essayer de pas être inquiet, de ne pas remplir les choses.
Pas avoir peur d'attendre, pas avoir peur du silence. C'est important, ça.
Et c'est surtout, j'ai remarqué qu'on a de l'autorité aussi, comme ça. Quand le personnage le demande. Hein. Et puis aussi, sur un plateau de tournage, par exemple, sur des scènes émotionnelles, moi, j'ai remarqué que quand on ne me parle pas trop, il y a des choses qui deviennent... Ouais. Parce que c'est très intime, en fait, le silence. Honnêtement, moi, dans la vie, j'aurais tendance à combler le vide, à tendance à parler, tendance à avoir peur. Le silence devient quelque chose de très intime. Alors, c'est vrai que, le manipuler, j'aime pas ce mot, mais utiliser ça dans le jeu, au théâtre, au cinéma, ça crée des choses intéressantes. Après, il faut être rempli, parce que sinon, les gens vont s'ennuyer. Hein.
Mais cette idée de supporter le silence, ça me fait penser aussi à tout ce qui se passe dans les conférences. Souvent, vous avez quelqu'un qui fait une conférence, et vous avez une personne qui anime l'événement, et qui dit, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'est tellement pas capable de supporter 5 secondes de silence, qu'il dit, ah ben non, il n'y a pas de questions, et puis on passe à autre chose.
Ah oui.
Alors qu'en fait, s'il attendait 10-15 secondes, il y aurait 15 mains qui se lèvent.
Ah oui,
en fait, le silence, c'est le moment où les gens élaborent, et il leur faut un peu de temps pour accoucher de quelque chose, c'est un peu pareil.
Oui, mais est-ce que le silence aujourd'hui ne devient pas un luxe quasiment dans l'échange, parce qu'on est tout le temps en train de regarder un film, d'allumer la télé, de regarder, de... Mais c'est vrai que être bien dans le silence, ça veut dire qu'on est bien avec la personne en face, quoi.
C'est... Ouais, c'est ça. Dans l'amour, dans le couple, être capable, voilà. Dans l'amitié aussi.
Ou dans l'amitié.
Être capable de supporter le silence.
C'est quand même précieux. Après, nous, dans notre travail de comédien, on s'y est habitué. On joue ouais. avec ça. On s'y habitue. Mais d'ailleurs, les relations entre comédiennes et comédiens, ou entre comédiens, le travail de comédien, ça nous plonge dans quelque chose de très intime. Même si on ne raconte pas notre vie.
Grâce au théâtre La Séparation et grâce au dossier 137, on a un peu de bloc de silence dans une époque de vacarme. Et ben, on va faire résonner tout ça en écoutant un peu de Marvin Gaye et de Tammy Terrell.
Super. Took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life.
C'était Marvin Gaye et Tammy Terrell, You're All I Need to Get By.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec la psychanalyste Léa Drucker, comédienne et actrice, et nous parlons des vertus de l'écoute, du silence. On a évoqué à un moment cette idée de réussir à écouter parfois sans juger, parce que quand on a trop de jugement, trop d'opinions, peut-être ça empêche d'écouter vraiment. Et or, il se trouve que dans le film à l'affiche duquel vous êtes, dans Dossier 137, on pourrait presque dire que c'est un film qui juge pas. Il y a d'un côté les gilets jaunes, avec ce jeune garçon qui est victime d'un tir de LBD. De l'autre côté, ces policiers, notamment de la BRI, qui ont commis peut-être une bavure. Mais finalement, le film est assez subtil, on comprend un peu les deux côtés.
Bah, disons que le film montre la difficulté de faire du maintien de l'ordre dans une telle crise que celle qu'on a connue pendant les manifestations des Gilets jaunes. Du point de vue de cette policière qui doit mener une enquête, plusieurs enquêtes, puisqu'ils sont débordés en fait. Ils sont débordés. Et dans une situation où elle est de toute façon, elle, en tant que policière, mal comprise de par son statut d'être à l'IGPN, en fait, de toute façon. Mal comprise par les citoyens, mal comprise par les policiers. C'est leur statut.
Mal
en fait,
comprise par les enfants de son fils.
Par les enfants, oui.
Le fils a deux parents en flic, vous qui êtes à l'IGPN et son père qui est au STUP.
Oui.
Mais il le cache, il a un peu honte que ses parents soient policiers.
Oui, c'est assez drôle et triste à la fois, ça. C'est-à-dire que mon ex-mari, qui est joué par Stanislas Mehra, me dit que qu'il a découvert qu'en effet, que notre fils caché. Avait inventé un autre métier. Et d'ailleurs, mon fils me demande, maman, pourquoi est-ce que personne n'aime la police ? Donc, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut expliquer pourquoi... elle essaye d'expliquer son métier et de dire que tout le monde ne déteste pas la police. Donc c'est le point de vue de ce film aussi, c'est de montrer les contradictions de ce métier, les difficultés, mais d'un point de vue humain en fait.
Voilà. Et c'est aussi un film où on essaye d'écouter la société. Oui. Je vous propose à ce sujet d'écouter Florence Aubenas qui en 2018 parlait des Gilets jaunes.
Quand on leur demande alors comment ça se passe, etc., qu'est-ce que vous comptez faire ? Et la première réponse est on a déjà fait les ronds-points. Et donc, ils ont déjà l'impression d'avoir retrouvé, en tout cas sur les ronds-points, alors ça peut paraître très paradoxal, une place qu'ils n'avaient plus dans la vie. Et donc, cette place-là qui leur semblait-il, voilà, niée, c'est-à-dire je vais plus voter parce que plus personne ne me représente, à l'école des enfants, j'ose plus y aller, puis c'est loin, puis je vais pas aller aux parents d'élèves, etc. Et donc, tout à coup, cette place, elle est là. On se dit bonjour, on s'embrasse. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe là. Et je pense qu'il va en rester, bien sûr, quelque chose, et quelque chose de fort et de profond. Et ça ne sera pas forcément sur tous les ronds-points, mais j'en suis sûre, bien sûr.
Ouais, c'est ça que le film parle de ça, hein, comment on réussit à écouter cette détresse et comment on peut avoir une barrière sociale, parce qu'on n'est pas de ce monde-là, mm-hmm. pour réussir à être à l'écoute, tout simplement.
Oui, c'est vrai que c'est drôle parce que Florence Aubenas, je dirais que c'est la journaliste qui m'a permis d'être un peu plus éclairée à l'époque sur ce qui se passait avec les Gilets jaunes, parce que j'en voyais que ce que je voyais à la télévision.
Ouais.
Et on ne comprenait pas tout très bien au début. Et les articles qu'elle faisait justement sur les ronds-points permettaient tout d'un coup d'humaniser ce qu'on voyait, parce que les images qu'on voyait c'était de la violence, ouais. Et bon. Et c'est vrai que nous, quand on a la chance d'avoir un scénario comme ça, quand on peut jouer dans un film comme celui de Dominique Moll, qui a été vraiment extrêmement documenté, où ils ont vraiment fait un travail d'investigation et de... Il y a beaucoup de sensibilité, d'humanité derrière tout ça. Nous, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'avoir juste la mission, entre guillemets, la mission ou l'objectif de raconter une histoire qui permet de se sortir des caricatures, mmh. et qui permet de donner non pas un point de vue en disant voilà ce qu'il faut penser et voilà ce que c'était, j'ai tout compris, mais plutôt de montrer aux spectatrices et aux spectateurs quelque chose qui permet d'avoir une conversation en fait, et de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense de tout ça, voilà qui était là pendant les manifestations, voilà qui a été blessé, voilà les conséquences que ça a eu dans sa vie, dans leur vie de famille. Est-ce qu'à trop parler de violence, on n'a pas complètement oublié les revendications ? Mais tout ça, moi je trouve qu'en tant qu'actrice, je n'ai pas à donner mon point de vue sur tout. Mais par contre, je peux rentrer dans des histoires qui permettent la réflexion et qui permettent des contrastes.
Et voilà. Pour revenir à la thématique de l'écoute, ce que je voulais dire tout à l'heure, je suis peut-être un peu mal exprimé, c'est que d'un monde à l'autre, dans tous les sens, est-ce qu'on arrive à s'écouter ? Est-ce qu'on arrive à écouter quelqu'un qui vient d'un autre monde sans avoir une projection comme ça de ses préjugés sociaux, de sa vision du monde ?
Mais c'est surtout qu'on pourrait faire partie des deux mondes. Oh, je veux dire, le personnage de Stéphanie Bertrand, elle est à la fois policière, mais aussi elle vient de Saint-Dizier et elle connaît des personnes qui manifestaient, avec les Gilets jaunes, donc qui étaient Gilets jaunes. Donc elle est entre les deux. Elle est dans ces, et je crois que ça a existé, ça.
Mais est-ce que c'est peut-être pas pour ça qu'elle a réussi à un peu écouter, parce qu'elle est entre les deux, alors que quand on est trop dans sa bulle d'entre-soi, trop dans son monde social, trop dans sa classe sociale, en fait, on n'arrive plus.
C'est possible, mais aussi il y a des personnes qui sont plus idéalistes que d'autres, quel que soit le métier. Il y a des gens qui sont idéalistes, peut-être qu'elle est un peu plus idéaliste.
Ouais, d'ailleurs, c'est une scène très dure, parce que la mère du fils qui a été victime du tir de LBD, elle lui reproche son idéalisme un peu naïf, parce que cette femme que vous jouez, inspectrice à l'IGPN, elle veut que les flics progressent, elle veut que justement, pour qu'on comprenne qu'ils travaillent bien, que ceux qui ne travaillent pas bien soient vraiment sanctionnés. Et l'autre, elle lui dit, mais nous, ça ne sert à rien, on voit bien dans nos quartiers, ils ne sont jamais condamnés, ils font des contrôles aux faciès, et finalement, ils ne sont jamais sanctionnés. Et là, vous êtes bien obligé de reconnaître que c'est vrai, dans le film.
Oui. Mais après, en fait, c'est ça. Oui, il y a un constat un peu amer. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'immobilise ou est-ce qu'on continue d'avoir l'espoir que ça avance ? Et c'est vrai que c'est naïf.
Le film, en tout cas, porte cet espoir. C'est pour ça que c'est un très beau film. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un autre film. Alors, j'ai découvert quelque chose de fou en préparant l'émission.
Ah là là.
C'est que nous avons le même film préféré. Alors, Rusty James.
Oh là là, Rusty James, ça je l'ai vu 150 fois.
Moi je l'ai vu, je pense, 50 fois en vrai.
Oui.
Quand j'étais prof au lycée, je le montrais à mes élèves tout le temps, chaque année, à toutes les classes. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes surtout fan de Matt Dillon.
Bah, j'aimais beaucoup Mickey Rourke aussi,
ah,
mais
oui,
j'étais,
même, ouais.
Oui, j'étais gamine, j'étais ado, j'étais amoureuse avec ma copine Christine Rebet, on était amoureuse de Matt Dillon, bien sûr.
Il faut expliquer aux gens, si vous n'avez pas encore vu ce film de Coppola, Rusty James en français, mais Rumblefish en anglais, bah vous avez de la chance, il n'y a pas que Dossier 137 à aller voir, il y a aussi Rusty James. Alors il y a Nicolas Cage dans son premier rôle, que son oncle Coppola a fait pour lui parce qu'il était désœuvré. Il y a Sofia Coppola dans son premier rôle, elle a 9 ans. Il y a Tom Waits qui est le barman, vous le saviez ça? C'est le barman, Tom Waits.
Ça, je ne me souvenais plus que
ouais, c'était le barman, Waits. C'est Tom Waits. Il y a Dennis Hopper qui est le père de Mickey Rourke et c'est un film sur... Et puis il y a Diane Lane. Qui est sublime.
Ouais.
Et donc, c'est l'histoire de deux frères. Il y en a un qui est très charismatique, qui est le motorcycle boy. C'est Mickey Rourke dans sa jeunesse, sublime. Et Matt Dillon, qui est le petit frère inhibé, qui admire son grand frère, mais il ne sait pas trop pourquoi.
Ouais. Mais ça, je ne l'ai pas revu depuis que j'étais ado, parce qu'avec Christine, dès qu'on allait dormir, chaque fois que j'allais dormir chez Christine, c'est à peu près une fois par semaine, on regardait Rumblefish, et on était complètement happés par... C'était en noir et blanc.
Tout est beau dans ce film.
Et c'était très beau, et puis il y avait...
Sauf les poissons qui sont en couleur, les poissons combattants.
Ouais. Mais je crois qu'il y avait... c'était ce personnage de Matt Dillon, quoi, qui était en même temps très sensible.
Ouais.
Il était très beau, bien sûr, mais il y avait cette espèce d'...
C'est déjà un homme déconstruit,
oui.
En fait.
Il était fragile.
Ouais.
Donc, adolescente, on pouvait projeter quelque chose qui n'était pas inquiétant.
Et bien justement, on va écouter la scène du film où on a les deux frères qui sont passionnés, fascinés par les poissons combattants.
These are rumblefish. They'd kill each other if they could.
Yeah?
Watch this. You know, if you lean the mirror up against the glass, they try to kill themselves fighting their own reflection.
It's pretty cool.
Yeah? I don't think that they would fight if they were in the river. They had a room to live.
Someone ought to get you off the streets.
Somebody ought to put the fish in the river.
C'est beau d'entendre ça.
Ah ouais, surtout que j'explique pour celles et ceux qui ont la chance de pas encore avoir vu ce chef-d'œuvre incroyable, intimiste de Coppola, c'est qu'en fait, on est dans une animalerie. C'est pour ça qu'il y a des bruits d'oiseaux. Et dans l'animalerie, ils se réfugient alors qu'ils sont poursuivis par la police et ils s'arrêtent devant ces poissons combattants, mais ils se battent parce qu'ils sont enfermés. Et tout ce qu'explique le grand frère charismatique à son jeune frère un peu inhibé, c'est, tu sais, s'ils étaient dans la rivière, s'ils étaient libres, peut-être qu'ils ne se battraient pas.
Ouais. Et c'est un peu, c'est aussi ce qui est beau, c'est aussi la relation, cette relation fraternelle avec l'admiration que lui a pour le grand frère et ce que l'autre, ce qu'il essaye de lui transmettre dans une situation en plus d'urgence comme
ça. Et ce qui est dingue,
c'est très poétique. Et c'était beau de voir des rockers. Parce que moi, je les voyais comme de mon point de vue d'adolescente, Mickey Rourke. Enfin, je les voyais comme des garçons un peu canailles,
c'est une bande.
Et qui avait de cette poésie, il y avait de la douceur, même dans leur voix, on l'entend.
Ouais, ils sont beaux, qui écoute le plus, le grand frère ou le petit frère?
Le petit frère, je dirais, non?
Ouais, il essaye d'écouter, mais le problème, c'est que son grand frère n'est pas très clair. Il y a une phrase géniale, je ne sais pas si vous vous souvenez, je le dis en français. Donc, Mickey Rourke, c'est la star, il est parti en Californie, en Harley, il est revenu, tout le monde attend son retour. Il arrive au milieu, c'est le début du film, d'une guerre de gang, et il arrive sur sa moto et il venge son frère qui vient de se faire, qui est au cœur de la baston. Et puis, à un moment, tout le monde le suit, mais lui, il est paumé. Et il dit, avec son regard glauque, sublime, et il dit à son petit frère et à son père, tu sais, emmener les gens, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir où aller. Et c'est presque un ressort du charisme.
Oui, mais des fois on a des icônes comme ça. Surtout quand on est ado, on a des inspirations fortes comme ça, et on a l'impression que c'est des gens qui savent où est-ce qu'ils vont. On a l'impression qu'on sait où on va aller, mais c'est vrai qu'ils ne sont qu'humains et que avec leurs failles et leurs... Mais j'aimais bien, moi, ces personnages justement qui étaient en apparence très forts et qui étaient complètement ou détruits à l'intérieur ou abîmés ou Il y a un très beau personnage comme ça, mais c'est pas le même genre de film, mais d'un film de Dino Risi, c'est le Fanfaron, c'est Vittorio Gassman dans le Fanfaron, avec Jean-Louis Trintignant qui se fait embarquer pendant tout un voyage avec lui, et l'autre c'est le Fanfaron, il est drôle, il est là, mais lui non plus, il sait pas où il va en fait. On découvre qu'en fait il est complètement fragile.
Je vous ai demandé qui du grand frère, donc dans Rusty James, Mickey Rourke, ou du petit frère Matt Dillon écoutait le mieux, mais je crois que celui qui écoute c'est le père. Mm-hmm. Sublime personnage d'avocat alcoolique joué par Dennis Hopper. Enfin, c'est un film vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Toutes les scènes sont des tableaux, quoi. Et à un moment, il les réunit tous les deux et il leur raconte quelque chose de la sagesse grecque. Il parle des Grecs tout le temps. Et notamment, on voit qu'il ne juge pas et son frère, son fils aîné qui est un peu délinquant et son fils cadet qui est trop écrasé par l'ombre du grand frère. Et justement, il a ce regard, je trouve, bon, malgré l'alcool, hein, mais c'est pas le sujet, de ne pas juger. Et de les prendre comme ils sont. Mmh. Et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on écoute, non ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'écoute active. Et on dit, l'écoute active, c'est quand tu arrives vraiment à écouter quelqu'un sans interprétation, sans jugement, sans intention et sans opinion.
Ouais, mais ça, c'est vraiment... Ça, c'est fort. Les gens qui arrivent à faire ça, moi, j'en connais quelques-uns, c'est des gens... C'est assez admirable de réussir à faire ça. De réussir à ne pas être dans le jugement.
Pensez à qui ?
Mon compagnon.
Ah ouais ? Ah bah, vous avez de la chance.
Ouais.
Ah ouais ?
Mais non, mais c'est vrai que c'est une force. C'est une force de vie incroyable. Et moi, je l'ai pas trop. Je l'ai dans mon travail parce qu'effectivement, pour prendre les personnages et puis pour les faire vivre et puis pour les incarner, si on commence à être dans le jugement de ce qu'ils ont fait, moi, je suis obligée. Mmh. C'est pas que ça m'intéresse et ça m'apprend plein de choses, mais mais je trouve ça difficile à faire au quotidien. Des fois, on est en parce que c'est le reflet de ce qu'on est aussi. Les gens sont les reflets. Moi, j'essaye de pas juger, mais il y a des moments. Je sais pas, vous y arrivez vous ?
J'ai des problèmes sur tous les sujets de l'émission. Écoutez, moi, je parle tout le temps. Et d'ailleurs, cette émission que je fais depuis 5 ans m'apprend un peu ça. Mmh. Je suis bien obligé d'écouter les invités. Donc c'est un long chemin. Mais revenons à vous et à votre compagnon.
Mais vous avez raison, l'écoute, c'est ça. C'est d'être capable de pas projeter des choses de soi sur ce que raconte la personne que vous avez en face.
Ouais, et puis surtout, comme l'a dit votre prof de théâtre, je crois, Nothing is something. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser à cette blague... Il n'y a pas de problème qu'une absence... Je crois que c'est une phrase d'un président de la République français il y a longtemps. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par régler. C'est-à-dire que parfois, c'est pas en rajoutant un truc que ça, qu'on règle le problème. C'est la vertu du rien à un certain moment.
Oui, alors ça veut dire qu'on devrait... Ça veut dire être dans un sorte de d'état un peu méditatif.
Oui, tout à fait.
Mais c'est ça. Oui, mais je suis d'accord et je crois en ça. Moi, je tends vers ça, en tout cas. Et je sais que quand dans le travail, c'est ce que j'essaye de faire. D'ailleurs, quand on joue, on essaye de jamais écouter avec la tête. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas avec notre mental ou avec l'intellect, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et j'ai dans mon expérience résolu des problèmes comme ça, c'est-à-dire par exemple des metteurs en scène qui parlent trop. Des fois, si j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent, je suis foutue. Je sais que je suis foutue. Donc j'écoute, mais c'est une écoute autre que intellectuelle. Je sais pas, j'écoute, j'essaie de ressentir ce qu'ils m'envoient comme onde, et puis après il se passe quelque chose. Et il me dit bah oui, c'est exactement ça que je voulais dire.
Dans l'histoire de la philosophie, il y a la figure de Socrate qui, enfin il y a deux Socrates, il y a le bon Socrate qui fait ça justement. Il est vraiment dans l'écoute active, et c'est la maïeutique, c'est ça qui permet à l'autre d'avancer. Mmh. Et Socrate, d'ailleurs, se laisse aussi déplacer, justement, parce qu'il écoute de l'autre. On peut imaginer que dans les meilleurs jours, c'est votre compagnon que vous avez évoqué, je ne sais pas s'il est acteur d'ailleurs, mais en tout cas...
Il est réalisateur, Julien.
Et bien peut-être que c'est ce qu'il fait. Et puis il y a le Socrate des mauvais jours, qui en fait manipule, et qui en fait dans une écoute avec une intention, mais ça peut être noble, par exemple un prof... peut écouter un élève en le manipulant pour l'emmener quelque part. Mmh. Parce que là, c'est une manipulation noble. Mais par contre, on n'est pas dans l'absence d'intention. Voilà.
Ouais. Ouais. Bah, ça ressemble au jeu, encore une fois. C'est-à-dire que nous, c'est de l'interaction. Et je parle beaucoup du jeu, je ramène ça toujours à ça, parce que j'ai l'impression d'exister. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'explorer plus de choses, des fois, dans mon travail que dans ma vie. Parce que je j'ose pas. J'ai plus de choses à résoudre, bizarrement, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que notre travail, c'est ça, c'est cette interaction. Ce que l'acteur ou l'actrice en face de moi va m'envoyer va nourrir l'instant d'après. Et on peut manipuler parfois. Si je me mets à... Enfin, on peut avoir des instincts, en effet, qui envoient quelque chose, une émotion, et qui va... L'autre va le modifier.
Ouais, s'il écoute.
Oui, mais des acteurs... Alors, si on est acteur et qu'on s'écoute pas, alors c'est cuit. Il y a
ça arrive jamais ? Vous avez jamais
si,
ce problème ?
Bien voilà. Sûr. Des gens qui jouent tout seuls et tout ça, mais c'est cuit.
J'ai rêvé de quelque chose d'autre que charbonner pour les autres. Moi je visais en haut et j'étais seul face à mes choix. Tu devrais faire un vrai bon char, qui disait. Là tu ferais quelque chose. Ils n'ont que des regrets, ils cherchent nos roues pour leur bâton. Ça m'appelle beaucoup mon frère, finissez pas par y croire, non. Le vrai son, là son va faire, pour nous c'est pas juste un plat. Tu me verras pas ta fête, je là où tout peut se faire. On verra bien dans 10 ans. Si je fais pas les choses en grand, moi j'ai trop hâte de ce qui m'attend. Et je voudrais bien que ce soit demain. On aura la vie qu'on veut. D'ennui et de rage.
C'était Yamé dans 10 ans.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Léa Drucker sur France Inter, sous le soleil de Platon, et nous parlons de ce que c'est qu'écouter dans la vie, sur scène, dans une scène de cinéma, de la vertu du silence et de cette manière parfois dont on tend l'oreille sans véritable intention, sans jugement, sans opinion. Et peut-être c'est ainsi qu'on entre en relation. Alors Léa Drucker, j'ai envie de vous demander un truc, puisqu'on parle d'écoute, et que j'ai adoré cette pièce, La Séparation. Alors c'est pas du tout prévu, on n'a rien imprévu, mais est-ce que vous auriez pas comme ça un petit moment de la pièce qui revient, que vous pourriez nous dire, et nous on va essayer d'écouter.
Est-ce que j'explique le contexte ?
Ouais, avec plaisir.
En fait, c'est un moment où Louise, que j'interprète, parle de cette vieille tante, qui n'est pas sa tante, mais qui est une femme qu'elle aime beaucoup, et qui est en train de mourir, voilà. Et qui est là, c'est dans la maison, et qui, c'est ses derniers instants, en fait. Et donc Louise dit à Georges, son mari, à un moment, elle lui dit, je me rappelle quand nous nous sommes mariés, et qu'elle m'a donné cette bague, c'était la première fois que j'entrais dans sa chambre. C'est ce jour-là que je sentis pour la première fois cette odeur, ce parfum exactement comme celui d'une rose desséchée, ou plutôt celui qu'on imagine qu'elle devrait exhaler, quelque chose qui serait à la fois fait de poussière et de fraîcheur. Je regardais sa table, sa coiffeuse, mais il n'y avait rien que ses 4 épingles et ce flacon d'eau de Cologne à bon marché, le sarcophage d'une toute jeune fille. Alors elle a fouillé dans un tiroir, et elle en a ressorti non pas un coffret à bijoux, mais une boîte à biscuits ou à berlingots en fer, toute piquetée de rouille, avec dessus une jeune femme vêtue d'une longue robe blanche à demi allongée sur l'herbe, dans une pose à la fois langoureuse et retenue. Et à ce moment-là, Georges dit, Georges fait un geste et je lui dis non, écoute. Donc à ce moment-là, dans la pièce, il ne m'écoute pas. Ou on dirait qu'il ne m'écoute pas. Et je rajoute, il n'y avait naturellement pas de clé et la boîte n'était fermée que par un cordon enroulé une vingtaine de fois autour. Et elle s'escrimant avec ses mains maladroites et raides, essayant de l'ouvrir, et toujours je pouvais sentir cet entêtant et sans doute imaginaire parfum de fraîcheur, de virginité et de temps accumulé. Non pas perdu, vaincu, ou plutôt surmonté, comme si la rouille et la maladresse des mains n'étaient qu'une seule chose, toujours la même, les années, le temps. Jusqu'à ce qu'elle ait réussi à l'ouvrir, me tendant à la fin la bague, et pas dans une boîte un écrin avec un nom de grand bijoutier, comme celle que tu m'as offerte, ou plutôt que ta mère m'a offerte, ou plutôt vous a offerte, je veux dire à toi et à elle-même, et lui dit « Oh bon Dieu !» Et moi je dis bah, « Si tu préfères, disons qu'elle se l'ait offerte à elle toute seule, ouais. Parce que j'imagine qu'elle aurait regardé comme un signe de déchéance que je porte au doigt quelque chose de moins de 500 000 francs. Tandis que celle-là, je n'en tirerais même pas 10 billets chez un bijoutier, et pourtant je ne la vendrais pas pour le double, ni le triple, ni pour n'importe quoi. » Voilà.
Merci beaucoup Léa Drucker, c'était un extrait de La Séparation en ce moment au Théâtre des Bouffes Parisiens, la seule pièce de théâtre de Claude Simon, oui. Prix Nobel de littérature. Merci, c'était très beau, et d'ailleurs, quand vous dites dans la pièce, hein, oui. Vous êtes Louise et vous dites à votre mari, écoute.
Non, écoute.
Voilà, et s'il n'écoute pas, c'est parce qu'il a trop souffert. Peut-être un trauma de la guerre,
oui.
Un stress post-traumatique.
Moi je crois, oui. Ah, pardon, je vous ai coupé, je ne vous ai pas écouté.
Non mais on s'est compris, c'est que du coup c'est ça aussi qui fait qu'on n'écoute pas. C'est que parfois ça crie trop à l'intérieur.
Absolument, et je crois aussi que Georges, à ce moment-là, il fuit la mort. Parce que cette vieille tante, elle est en train de mourir, et c'est une femme absolument formidable. C'est une femme qui a été dans la discrétion, dans le silence, et qui a œuvré toute sa vie au champ et comme institutrice, en faisant des économies pour que sa famille, pour que son petit frère puisse se hisser et devenir un grand professeur. Donc c'est des gens qui sont dans l'ombre, à qui ne sont pas flamboyants, mais qui ont fait des choses en fait remarquables, tout en discrétion. Et donc cette Louise, elle a conscience de ça, et elle aime beaucoup cette femme, et elle la respecte beaucoup, et il y a un lien entre elles. Et Georges, en fait, il est dans le déni, il fuit cette mort de façon un peu ironique, alors que moi je sais dans le fond qu'il y est très attaché à cette... c'est ce que je ressens. Donc lui s'étant confronté à des choses terribles, il est
il se protège.
Il est dans le rejet de tout.
Il se protège parce qu'il a, oui. il a trop souffert.
Il est hypersensible.
Voilà, et on sent qu'il est blessé. Il peut plus supporter une autre tristesse. Il s'est fermé.
Absolument,
quoi.
Absolument. Et ça, c'est très bouleversant. Enfin, moi, ça me bouleverse. Ça.
Et d'ailleurs, peut-être que dans le silence revenu, on entend bien les parfums et on sent les parfums d'autant plus qu'il y a ce silence qui finalement laisse la place au reste.
Oui, la mémoire sensorielle.
Ouais.
Alors la mémoire sensorielle, c'est intéressant parce que. Louise, quand elle évoque ses parfums, c'est en effet de la mémoire sensorielle, c'est quelque chose qu'on utilise, que moi j'utilise beaucoup dans mon travail d'ailleurs, qui amène des émotions. Et Claude Simon, je l'ai entendu beaucoup parler de Marcel Proust.
Ouais.
Il en parle tout le temps dans ses entretiens, et il en parlait beaucoup.
D'ailleurs, dans son écriture sensuelle, il y a ça.
Complètement, hein. Complètement. Il est sur l'instant de l'écriture, et d'ailleurs, nous, dans le texte, on a des choses à surpréciser tout le temps, et c'est vrai qu'il écrivait, c'est comme ça, il écrivait dans des choses de mémoire sensorielle, de sensations, d'ailleurs, il aimait la photo, alors je crois qu'il a été photographe aussi, et donc il décrit même des instants de lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour décrire un moment, Georges, à un moment donné, décrit la lumière verticale sur le lit de cette vieille tante.
Ouais, c'est très beau ce moment.
Et c'est une façon d'exprimer aussi quelque chose, que de ne pas être que dans le rationnel de l'échange. C'est aussi de la mémoire photographique et la mémoire sensible. Et on est fait de ça, on est tous fait de ça.
On va écouter à nouveau cette voix de Claude Simon, qui vous a tant touché tout à l'heure.
Je n'ai pas le don de parole. C'est d'ailleurs là une des raisons pour lesquelles j'écris, quoique encore avec beaucoup de difficultés. Mon travail absorbe le plus gros de mon énergie, de sorte que l'âge aidant, ou plutôt n'aidant pas, je vis dans le silence et l'ombre. Et si l'on a pu dire qu'écrire est l'appel d'une solitude à une autre solitude, voilà soudain qu'à ces appels lancés par moi comme autant de bouteilles à la mer, répond aujourd'hui une multitude, au point que j'ai l'impression d'avoir ce soir autour de moi plus d'amis que je n'en ai jamais rencontrés au cours de ma vie mondaine.
Donc c'était le discours de réception de son Nobel, évidemment.
Ouais. Ben oui, il parle beaucoup de l'âge que j'entends, c'est cette idée de chercher la solitude, et pour qu'advienne l'écriture, j'imagine.
Ouais.
Moi, j'ai pas
dans le silence aussi, dans le silence des relations qui se taisent, des relations sociales, des relations mondaines, entrer en connexion avec les autres solitudes.
Oui. Je crois qu'il y a les deux. C'est pas très clair dans ma tête, mais j'ai l'impression que peut résonner, par exemple, la solitude de Louise ou l'enfermement dans lequel est Georges. Ça peut résonner pour quelqu'un dans la salle, quand même.
Oui, ouais, c'est vrai. Dernière question, Léa Drucker. Dans la pièce, donc la séparation, vous finissez, alors je dis pas à quoi, mais par renoncer à quelque chose qui est l'enjeu de la pièce. Ce renoncement, ça vous parle ? Vous avez renoncé dans votre vie à quelque chose d'important ?
J'ai failli, mais non. J'ai failli renoncer à ce métier que j'aime beaucoup.
Ah oui ?
Mais finalement, je ne l'ai pas fait.
Et c'était quand ?
J'avais 28 ans. Et puis, non, je n'ai pas renoncé. Non. Non. Je n'ai pas cette sensation, en tout cas, dans mon expérience de vie. J'ai même jamais renoncé. Parce que dans le renoncement, il y a l'oubli aussi, non ? Et
Tant mieux.
Je n'ai pas renoncé, je ne crois pas.
Tant mieux. On va s'arrêter là. Ce sera le mot de la fin. C'est bien de ne pas avoir renoncé. Ce sera une invitation, donc double invitation pour nos auditeurs et auditrices, à essayer de se parler le jour de Noël et ne pas renoncer à ce qui compte pour soi. Pour vous remercier, Léa Drucker, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, qui fut beaucoup celui de Socrate et de la qualité d'écoute. Je voudrais essayer de dégager la philosophie de la vie qui est la vôtre, que j'ai essayé d'entendre, d'écouter. Une philosophie très sensible, une philosophie de la nuance, articulée sur deux idées que vous avez beaucoup répétées. Un, nothing is something. Deux, on l'a deviné, less is more. Une philosophie très humaniste de l'émotion et de la résonance. C'est ça, faire résonner dans un regard la relation, faire résonner bien sûr un personnage dans sa manière de jouer. Et puis, pour qu'on retrouve cette philosophie de la vie, vous pouvez aller voir La séparation de Claude Simon au Bouffe Parisien, dossier 137 Dominique Moll au cinéma, et puis revoir Rusty James en pensant à tout ce qu'on a dit, ce film merveilleux de Coppola adapté d'une nouvelle de T.S. Eliot, on ne l'avait pas dit. Léa Drucker, merci encore.
Merci.
Cette émission a été préparée par Estelle Gapp et Louise Tempero, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Corentin Rouchy. À demain.